Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais vous parler aujourd'hui de psychogénéalogie, qui est l'étude de notre arbre généalogique et qui va établir un pont entre psychologie et généalogie. Peu de personnes aujourd'hui sont encore conscientes de la force du système familial et à quel point les liens inconscients peuvent être déterminants pour notre destinée. Alors la psychogénéalogie va explorer les liens transgénérationnels dans la famille d'une personne. Et elle va mettre en évidence une forme de loyauté invisible qui nous pousse à répéter consciemment ou inconsciemment des situations ou des événements qui sont agréables ou douloureux du passé de nos aïeux. Jung parle déjà d'inconscient collectif, celui-ci qui est transmis de génération en génération et qui accumule ainsi les expériences de l'humain. Alors la notion de transgénérationnel remonte à la nuit des temps, et on peut retrouver dans le texte hébraïque de la Torah cette affirmation « Les fautes des pères rejailliront sur leurs fils jusqu'à la troisième ou quatrième génération. » Et aussi cette phrase dans la Bible qui dit « Les parents ont mangé des raisins verts et les dents de leurs enfants en ont eu les dents agacées. » Quant au fondateur de la psychogénéalogie, on va retrouver Jung, Anselin Schützenberger, celle qui a écrit « Aïe nos aïeux ». On a aussi Jodorowsky, Didier Dumas, Bert Hellinger et bien d'autres qui ont fondé la théorie selon laquelle les événements, les traumatismes, les secrets, tous les conflits vécus par nos ascendants conditionneraient nos troubles psychologiques, nos maladies et nos comportements étranges ou inexplicables. On a même Netflix qui dernièrement a proposé une série qui s'appelle « Les chemins de l'Olivier » et qui est l'histoire de trois amies, ça se passe en Turquie, où chacune avec des problématiques différentes vont faire face aux traumatismes non résolus de leur passé familial par le biais de ce qu'on appelle les constellations familiales. Alors pour ma part, j'ai découvert la psychogénéalogie il y a à peu près une quinzaine d'années. C'était quasiment en même temps que le décodage biologique. À mes yeux, l'un n'allant pas sans l'autre. Ce fut donc pour moi, à cette époque-là, complètement déstabilisant, mais aussi déstabilisant qu'incroyable, du fait que je comprenais à ce moment-là qu'il existait bien des liens entre mon passé et mon présent, et que j'étais soumise à une loyauté familiale à cette époque. Donc, durant cette période, j'avais un eczéma sur les mains, principalement à l'annulaire gauche, et par moments ça me démangeait terriblement. Donc pendant l'étude de mon arbre avec le thérapeute, j'ai pu mettre en lumière l'histoire de mon arrière-grand-mère, les fiançailles de cette arrière-grand-mère qui ne désirait pas se marier avec celui qui lui était destiné. Et en avançant dans l'arbre, petit à petit j'ai pu comprendre que c'était elle qui voulait retirer sa bague et pas moi. Ça a été, moi, ce que j'ai appelé ce moment-là, un instant de guérison. Quand j'ai compris ça, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai eu des frissons, j'ai eu chaud. Et à ce moment-là, c'est comme si j'avais mis de la lumière sur cet événement et que je pouvais revenir dans mon temps. Suite à ça, mon eczéma, il a disparu et il n'est jamais revenu. Cette expérience m'a permis de comprendre que je ne pouvais pas accompagner les personnes sans prendre en compte leur histoire familiale. Et c'est ainsi que sont nés les stages de psychogénéalogie des lignées maternelles et des lignées paternelles, pour comprendre comment notre arbre structure notre psychisme. Investiguer son arbre, c'est pour moi permettre à notre esprit, notre conscience, de voyager dans le temps et ramener les pièces d'un puzzle incomplet pour voir notre vie non plus comme un chemin linéaire avec une seule direction, mais plutôt comme un vaste champ de possibilités. La famille est donc un véhicule de notre histoire. Chaque génération transporte dans l'espace et le temps son bagage de réussite, de souffrance et aussi de ressources. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, dès notre venue au monde, nous sommes l'objet de nombreuses attentes de la part de nos parents, de leur couple, voire de notre famille, comme s'il nous était établi une sorte de programme de vie. Lorsque nous naissons, nous sommes donc conditionnés génétiquement, mais aussi psychiquement, car nous sommes inscrits dans une histoire qui nous précède. Or, en savoir plus sur les événements qui ont marqué notre avènement permet souvent de mieux comprendre ce qui nous constitue et nous détermine. Alors, l'arbre généalogique est avant tout un système de répétition, les traditions, cultures, les transmissions du nom, les héritages, les conservations du patrimoine, enfin, toutes ces valeurs font partie intégrante de la notion même de famille. D'un point de vue très primitif, si l'on se réfère aux conditions de survie des sociétés premières, un enfant est incapable de subvenir à ses propres besoins. L'appartenant au clan est une condition sine qua non de survie. Et être rejeté hors du village, banni de la tribu ou du sein maternel, c'est mourir de faim, de froid ou être attaqué par des bêtes sauvages. Cette condition première, elle est gravée dans notre inconscient et va déterminer une terreur universelle à la perspective d'être exclu. Et dans l'inconscient, on enregistre qu'il n'y a donc d'avenir qu'à l'intérieur du clan. Et cet avenir ne peut être que la répétition du passé, puisque le clan m'intime avant tout de perpétuer ses valeurs, même si elles sont au détriment des miennes. Alors pourquoi répondons-nous aux injonctions du passé, des femmes et des hommes de ma généalogie ? Eh bien, par le simple fait que le clan est un système hiérarchisé de solidarité et d'appartenance dont les membres se doivent d'être identifiables comme éléments du groupe avec comme demande inconsciente, soit comme nous. Et nous sommes donc ces SEI, ce que l'on nomme plutôt des stress émotionnels inachevés. Et nous passons notre vie à essayer de répondre aux demandes, aux rêves de notre lignée par nos comportements, nos métiers, nos maladies. Et c'est donc comme cela que nous pouvons faire un métier tant rêvé par nos parents, qui a par exemple pour objectif de m'amener la sécurité, chose qu'ils n'ont pas eue à leur époque, et dans lequel nous, personnellement, nous ennuyons terriblement avec la sensation de passer à côté de sa vie. Ou bien nous restons dans un couple, une famille qui ne nous convient plus, en revanche qui répond aux valeurs familiales, et on se convainc que c'est mieux pour soi. Face à un problème familial, la généalogie va réagir en adoptant la meilleure solution que leur niveau de conscience leur permet de trouver. Et il peut y avoir aussi des parents, des familles, qui en fonction de leur expérience, de leur déception, nous apprennent à être des êtres indépendants. Et ils nous disent que pour survivre dans ce monde, il ne faut compter que sur soi, pensant que la liberté se trouve dans notre capacité de n'avoir par exemple besoin de personne. Et c'est comme ça qu'on va par exemple faire une valeur et nous construire en devenant des personnes fortes, extrêmement indépendantes, en ayant ainsi un besoin légitime de dépendance, de partage et de soutien. Quand on étudie un arbre, la notion de secret de famille revient souvent. Alors encore faut-il comprendre de quoi on parle lorsqu'on évoque ce type de secret. Il faut savoir que tous les non-dits de l'arbre constituent une sorte de secret de famille et il n'est pas toujours nécessaire de remonter très loin pour dénouer ses propres souffrances. Souvent, derrière tout secret, on va retrouver des événements qui concernent une honte sociale ou familiale, un tabou majeur comme l'inceste. Pour comprendre un secret, il va être essentiel d'entendre comment vos familles évitent certains sujets, comment ils peuvent se sentir agacés vis-à-vis de certaines questions, ou encore se mettre à pleurer, se posant ainsi en victime, et coupant court à toute discussion. Alors Dolto disait déjà « L'enfant a toujours l'intuition de son histoire. Si la vérité lui est dite, cette vérité va le construire. » Lorsqu'on soupçonne un secret de famille et qu'il résiste à nos recherches, la meilleure attitude à adopter, me semble-t-il, est d'étudier l'arbre tel qu'il est, avec toutes ses nuances, ses valeurs affectives, idéologiques, sexuelles et matérielles, et ouvrir les yeux sur les circonstances sociales qui peuvent entourer l'arbre, car elles sont souvent déterminantes dans la constitution du secret. Par exemple, lorsque des enfants ont été élevés dans une institution religieuse, il est intéressant de se demander quelles étaient leurs conditions de vie dans ce pensionnat. Si la famille était très pauvre et que les enfants ont travaillé très jeunes, il est probable que les enfants aient été soumis à divers abus. Certains secrets ne tiennent qu'à la douleur de ne pouvoir souvent les exprimer, exprimer une vérité intime. Par exemple, un amour réprouvé par la société du temps, une activité, une orientation sexuelle en conflit avec la morale familiale ou un abus subi dans un contexte où l'abus est si courant qu'on le croit normal. Le secret de famille est souvent motivé par l'incapacité qu'a une personne de dépasser le niveau de conscience de la société et de la famille dans lequel elle vit. C'est comme une difficulté et une incapacité à désobéir aux injonctions familiales. En dialoguant sereinement avec les membres de sa famille, on a parfois la surprise d'entendre ses secrets se révéler pour la première fois, car certains membres de la famille finalement ne cherchent qu'au fond une oreille compréhensive pour pouvoir s'en ouvrir. Quelle que soit la situation, quelle que soit la gravité apparente du secret, la vérité est toujours préférable au silence. Non pas en vertu d'une morale quelconque, mais parce que l'inconscient familial est toujours informé du secret et que chaque membre de la famille le porte, par conséquent, comme son destin propre, sans même le savoir. Et on se rend compte également que sur 4 générations, tout ce qui a été caché finit par se manifester à un moment donné, que ce soit par une répétition, une révélation ou un autre processus. C'est ce qu'on appelle une confession généalogique. C'est-à-dire que l'inconscient individuel tend à se manifester à travers des rêves, des actes manqués, des répétitions, des rencontres, des coïncidences, des actes compulsifs, des phobies, des tocs. Bref, l'inconscient familial s'exprime souvent à travers le plus sensible de ces sujets, que ce soit à travers l'art ou le désir très fort de faire un travail sur soi ou d'avoir une pratique spirituelle. Alors pourquoi répondons-nous aux injonctions familiales ? Eh bien tout simplement parce que nous ne possédons pas notre temps, c'est-à-dire que nous sommes parasités par le temps de nos ancêtres, car le temps dans lequel je vis est paralysé par une question du passé familial auquel les membres du clan n'ont pas su y répondre. Et nous pouvons continuer à y répondre tant que nous n'avons pas eu accès à l'histoire, à la douleur de l'ancêtre. On peut prendre par exemple l'exemple d'une grand-mère qui a perdu son enfant à la naissance et qui n'a pas pu faire le deuil de cet enfant. Elle peut porter du coup en elle un désespoir qui la suivra tout au long de sa vie, et sa descendance pourra porter ce désespoir qui pourra s'exprimer de différentes façons. Par exemple, une petite fille pourra devenir sage-femme, médecin, répondant inconsciemment à la demande de la grand-mère quant à comment sauver son enfant. Ou encore, on peut avoir un refus d'avoir des enfants avec la terreur inconsciente de perdre un enfant, ou encore, le jour de la naissance d'un enfant ou à la date de la perte de l'enfant, ressentir un profond désespoir qui ne trouve aucun sens dans le présent. Alors, comment on va faire son arbre ? Alors déjà, c'est intéressant de recueillir et d'organiser des informations pour avoir une vision claire et savoir que même si vous n'avez aucune information sur votre arbre, vous avez au moins le prénom de vos parents et les dates de naissance, et déjà c'est énorme parce que pas d'information, c'est déjà une histoire qu'on raconte. Donc pour commencer déjà, on va pouvoir noter les noms et tous les prénoms des membres de l'arbre. Le prénom est souvent un élément clé de notre identité, et ce prénom peut être rattaché à des malédictions ou des projections. En séance, on remarque aussi souvent que l'on porte des prénoms qui ne sont pas le même que sur la carte d'identité. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi tu t'appelles comme ça et pourquoi sur ta carte d'identité, c'est autre chose. Donc écoutez ce que les parents vont vous dire. Recueillez aussi les dates de naissance, de mariage, de décès. C'est intéressant de savoir, de connaître les dates de rencontre de vos parents, des couples de la généalogie et comment ils se sont rencontrés. Vérifiez aussi éventuellement les livrets de famille, il y a pas mal d'informations là-dedans. Trouvez aussi l'âge de la mort de vos ancêtres, comment ils sont morts, qui étaient les aînés, les benjamins, et s'il y a eu des parents qui sont morts, à quel âge vos parents, vos grands-parents ont perdu leurs parents. Il est également important de savoir combien de fois les femmes de la lignée ont été enceintes, combien d'enfants vivants elles ont eu, combien d'enfants morts, les avortés, les fausses couches. Les enfants morts souvent sont transformés dans l'esprit de la mère comme un membre de la famille, un ange, un sauveur potentiel, indépassable, où on peut porter la mémoire de cet enfant mort. Notez aussi les professions des parents, les rêves aussi qui n'ont pas pu par l'époque aboutir. S'il y avait des parents artistes, des parents très intelligents qui n'ont pas pu faire des études à cause du milieu social, Vous pouvez aussi enquêter sur les grands voyages, les exils, les accidents, la notion de religion, quelle était la religion de vos parents, de vos grands-parents, comment elle a été transmise aussi. Les guerres sont aussi importantes, qui est parti à la guerre, comment ça s'est passé. Il y a aussi la conception du monde. C'est intéressant de déterminer quelles sont les valeurs de vos parents, leur rapport à l'argent, comment on parle de l'argent, comment on parle des femmes aussi, comment on parle des hommes, les misogynes, les misandres aussi. Voilà, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on dit dans ces arbres, comment on parle de l'humanité. Plus vous allez questionner, plus vous pourrez établir des résonances et des liens entre votre vécu et ce passé, et de repérer aussi ce qui a pu se transmettre d'une génération à l'autre. Il faut savoir que quand on met de la lumière sur des zones d'ombre, des non-dits de notre arbre, on va pouvoir sortir de ces blocages et on va pouvoir s'en libérer. Alors souvent, pour s'en libérer, en tout cas moi dans ma pratique, j'utilise beaucoup les actes symboliques, ce qu'on appelle les actes psychomagiques, qui viennent d'Alexandro Jodorowsky, et qui permettent ces actes-là de sortir de notre cage psychique dans lequel notre famille, notre société, notre culture nous ont laissés. Et avec ces actes-là, on va chercher à casser les cercles vicieux dans lesquels nous pouvons être coincés, tant émotionnellement, intellectuel que sexuel. Donc la psychogénéalogie va ouvrir le champ des possibles et maintenir les loyautés qui nous conviennent, faire émerger tout ce qui a pu être joyeux aussi, honorable, agréable et paisible, de déposer le fardeau des erreurs, les souffrances, les fautes du passé, et d'accepter qu'il peut y avoir des choses pas très jolies dans l'arbre, des hontes, des non-dits, des drames non résolus dans notre famille et des pertes impossibles à admettre, et de prendre ainsi du recul pour faire la différence entre ce qui leur appartient et ce qui nous appartient. Nous guérissons l'arbre en réalisant ce que nous sommes au plus profond de nous et en accomplissant notre destin personnel. Et une personne qui a guéri son arbre, elle va être remplie d'une saine joie de vivre, libre des liens qui l'attachaient au passé et ressentant le caractère sacré de tout ce qui l'entoure. Elle va prendre conscience que tout est relié à tout, tout est possible, tout est vivant. Abandonnant les espérances et les buts, elle va se laisser mener par le chemin et faire confiance en la vie et prendre conscience que nous n'avons pas été engendrés finalement par nos parents, notre famille, mais à travers eux. Alors j'espère que ce podcast vous aura donné suffisamment d'informations et de curiosité pour commencer à questionner vos familles. Alors je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle exploration dans vos lignées. Et n'oubliez pas qu'au bout du compte, ce n'est pas ce que nous pensons, ce que nous affirmons qui va déterminer notre réalité, mais ce que nous sommes ou non capables de faire. À très bientôt de vous retrouver et je vous souhaite une très belle journée. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life. Such faith and trust all. Let
earth holding me, take care.